En réalité, il y avait un Jacob qui avait les mains d'Ésaü. Vous voyez, c'est Jacob ayant les mains d'Ésaü qui est Israël et qui reçoit les bénédictions. Alors que Ésaü parlant comme Jacob, ben je vais vous donner quelque chose, c'est simple, c'est un curé, un romain qui lit la Bible. C'est Ésaü qui prend la voix de Jacob. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler d'un curé citant la Bible. C'est ce verset qui a fait peur à Isaac. Il dit, qu'est-ce qui se passe? La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Alors, dans deux perspectives complètement différentes. Vous voyez, Jacob, c'est que l'esprit. Israël, c'est l'esprit et la matière. Ésaü, c'est que la matière. L'Église, c'est Ésaü s'occupant de la Bible. Vous voyez ce qui se passe? Que faire? Vous voyez quel est le conflit? Deux formules d'Israël. Un qui serait Ésaü se prétendant Israël, et ça à la limite c'est Rome, et un qui est Jacob devenant Israël, et ça c'est l'État d'Israël. Je dis bien l'État d'Israël, pas le ghetto juif. Le ghetto juif c'est Jacob. L'État d'Israël, c'est Israël. Et qu'est-ce que c'est Israël? C'est Jacob, plus les vertus d'Ésaü, les vertus, les capacités d'Ésaü. Je vous donne un exemple. Et je vais faire une analyse, je ne sais pas si vous l'avez vu cette année. Mais c'est clair jusque-là? Alors vous voyez ce qui est en conflit. L'État d'Israël a deux rivaux. Les Haredim, qui veulent rester Jacob, et qui sont contre l'État d'Israël. Et leur alibi, c'est de dire, on attend le Messie. Et les chrétiens leur répondent, mais il est déjà venu. Et puis, l'autre rival, c'est Rome, et le génie d'Ésaü, mais prenant la voix de Jacob et se prétendant à Israël. Alors, vous voyez que la chose est simple. Hein? Donc, c'est déjà écrit dans la Torah. Il n'y a que Jacob étant Israël, c'est-à-dire capable de préparer à manger, qui reçoit les bénédictions et qui est Israël. C'est clair jusque-là?
La finalité, là, parce que c'est qu'il y ait l'union de Jacob et d'Ésaü au sein du peuple d'Israël, mais pour que ce soit au sein du clan, je veux dire. Il peut y avoir certains qui soient plus Jacob et d'autres qui soient plus Ésaü, et l'union du peuple, ça fait l'union, ou au sein de chaque individu?
Au sein du clan.
Au sein du clan, c'est
ça. Pour chaque individu, c'est très très rare.
Vous connaissez. La finalité, je demande pas.
C'est au sein du clan. La finalité, c'est au sein de l'individu. Mais chaque individu participe un peu de l'identité du clan. Si c'est l'individu de son clan, alors le problème est résolu. Mais pratiquement, c'est au sein du clan que c'est résolu. Vous apprendrez ça par la suite, dans les cours prochains, c'est le problème entre Judas et Joseph. Joseph, c'est un Ésaü cachère. Et Judas, c'est la suite de Jacob. C'est un Jacob cachère. On verra que la prérogative de la voix est donnée à Judas. Il y a un verset dans les bénédictions de Moïse qui dit « Shema Hashem Kol Yehuda ». La voix, c'est à Jacob, il la donne à Judas. Les mains, c'était Ésaü, et Jacob les donne à Joseph. Et c'est quand Joseph et Judas se réconcilient qu'Israël apparaît. Judas seul, ce n'est pas encore Israël. Joseph seul, ce n'est pas encore Israël. La carte d'identité de Judas et de Joseph, on la verra après, je ne vais pas vous mélanger. Pour le moment, on est entre Jacob et Ésaü. Et alors, on a connu dans le temps contemporain un cas qui soit capable d'être génie dans les sciences et génie dans la Torah. Qui sait de qui il s'agit? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a dit d'ailleurs lui-même, lorsque on fera la même découverte en mathématiques et dans la Torah, le Mashiach sera là. Mais le Gaon de Vilna était un génie des sciences et un génie de la Torah. C'est un cas exceptionnel. C'est rare. Maïmonide, c'est philosophie. Beaucoup plus que les sciences. Mais Maïmonide est de cet ordre. Mais le Gaon de Vilna, c'est plus dans le sujet que je dis. Je vous donne un exemple. Le père du Gaon de Vilna, qui a été son maître, lui a fait promettre qu'il ne fabriquait jamais de médicaments. Parce que s'il fabriquait des médicaments, et était capable, s'il fabriquait des médicaments, il y aurait la queue à sa maison pour être soigné par le Gaon de Vilna, il n'aurait pas le temps d'étudier. Alors il lui a fait promettre qu'il ne ferait jamais des cachets d'inspirine pour pouvoir s'occuper de l'inspirine. Vous voyez la différence. Mais le Gaon de Vilna est un grand mathématicien, un grand physicien, un grand pharmacien. Et un grand Tamikra. Bon, beaucoup de gens sont un peu comme ça, microbes à côté du géant. Hein? Mais c'est très rare. C'est très rare un homme capable des deux capacités. d'avoir l'intuition des deux sens, le sens de la science et le sens de la Torah. En général, on a des hommes qui sont voués à la Torah, et puis en général, malheureusement, ils sont contre la science. Alors ceux-là, ils sont indisponibles, comment dire, inefficaces. Et finalement, on ne peut même pas utiliser leur Torah. Et puis, vous avez des hommes qui sont capables de science et incapables de Torah. Et en général, malheureusement, ils sont contre la Torah. Alors ils sont, on dit, néfastes. Vous avez des gens comme, par exemple, en philosophie, Jean Spinoza, qui est un génie en philosophie anti-Torah. Mais l'idéal, c'est au niveau du clan d'Israël, ceux qui sont voués à la Torah pour le clan d'Israël, pour la nation, pas pour leur propre ghetto. Je ne sais pas si vous m'excusez. Vous voyez le drame que nous vivons, ces problèmes-là, dans la société juive. Et puis, évidemment, ceux qui sont voués à la Torah pour la nation doivent aussi dire ce que la Torah a décidé concernant l'utilisation de la science, être capable de comprendre la science suffisamment pour dire quel est le psak din, comment on utilise un frigidaire le Shabbat, par exemple. Vous comprenez ? La capacité de Torah, ce n'est pas quand on est capable d'interdire. C'est quand on est capable de dire qu'est-ce que la Torah a à dire de quelque chose de nouveau qui apparaît par la science. C'est très différent. Ça s'appelle Kocha Deyetera. Quelqu'un dont la piété consiste à interdire, c'est un ignorant. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la Torah, il n'est pas capable de dire ce que la Torah dit et dit interdit. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est le signe que c'est un ignorant. Et en général, les fanatiques sont ignorants parce que les ignorants sont fanatiques. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'exception. Et je me rappelle, quand j'étais avec mon père, je me disais, qu'est-ce que c'est un amaré ? Vous savez ce que ça veut dire, amaré, en hébreu ? Un ignorant de la Torah. Okay ? Alors, il nous avait donné plusieurs définitions. Une d'entre elles est extraordinaire. Elle est dans les commentaires du Talmud. Un amaré, c'est quelqu'un qui connaît tout le Talmud et que ça. C'est un amaré. Alors vous imaginez que ça devrait être un Talmud. Bon. Ça s'appelle Hamor Nosse Sfarim. Un âne chargé de livres. Il reste âne. Il y a beaucoup de livres. Il est courbé. C'est pas de la piété. C'est simplement qu'il est écrasé par ses livres. Mais ça reste un Hamor. Vous avez compris ce que je veux dire ? Méfiez-vous des ânes chargés de livres. T'es clair, celui-ci ? D'ailleurs, je crois que en français, on dit que ceux qui ont des diplômes et que ça, c'est qu'ils ont des peaux d'âme. On revient au sujet. Ça veut dire que c'est au niveau du clan qu'il doit y avoir cette collaboration. Et pour cela, il y a un minimum commun dans les deux côtés. Un minimum de connaissance du monde chez le Talmid Chacham et un minimum de connaissance du Shulchan Aruch chez le savant. Et puis, c'est ensemble que apparaît Israël. Je vais vous ouvrir une petite analyse, vous allez comprendre pourquoi c'est important et qu'il ne faut pas tellement s'étonner, bien que ce soit très très difficile à vivre, qu'il y ait toutes ces rivalités contre Israël. Je crois que je vous les ai décrites. Un Ésaü qui n'est que Ésaü, c'est le matérialiste pur. Un Ésaü qui se prétend Israël, ça c'est le chrétien. Un Jacob qui ne veut être que Jacob, ça c'est le Haredi, et un Jacob qui devient Israël, c'est l'État d'Israël. C'est pas plus compliqué que ça. C'est clair ? Vous lisez bien le texte. Tant que Jacob n'est que Jacob, il n'est encore pas Israël. Or c'est Israël qu'on cherche. Et il n'y a que Jacob qui peut être Israël. Ésaü ne peut pas être Israël. Voilà, je veux dire, quand on fait un grand panorama de l'histoire des civilisations, alors je vous prends 6000 ans d'histoire en une phrase, on s'aperçoit qu'à la longue, il y a eu une spécialisation des génies de civilisation. L'Orient est devenu, à la longue, ça prend des siècles, des millénaires, parce qu'au début, la science venait de l'Orient. Ça, vous avez appris à l'école, je suppose. Mais, en fin de compte, l'Orient est devenu capable de performance au niveau spirituel et aveugle au niveau des sciences. Ça ne signifie pas qu'un oriental ne peut pas être un savant. Il y a des orientaux qui peuvent être prix Nobel, mais c'est parce qu'ils se sont fait disciples de la méthode occidentale. Vous avez des Chinois prix Nobel de chimie, mais parce qu'ils ont appris la chimie en Amérique. Ils peuvent devenir prix Nobel. Ce n'est pas qu'ils sont incapables, mais ils sont devenus aveugles en tant que tels. un oriental est préoccupé de vie spirituelle. Vous avez au minimum une culture occidentale n'a aucune idée de la capacité spirituelle des orientaux. L'occidental n'a aucune idée de cela. Alors qu'en Occident, c'est l'inverse. L'Occident est devenu capable de performance dans les sciences et les techniques et il est aveugle au niveau spirituel. Il n'y a qu'à lire la littérature occidentale, on s'aperçoit à quel point il s'agit d'aveugles qui tâtonnent dans des tunnels. Et ça ne veut pas dire qu'un occidental n'est pas capable de vie spirituelle, mais pour ça, il faut qu'il se fasse le disciple d'un oriental. Les occidentaux appellent ça s'orienter, parce qu'ils ont perdu la boussole. Alors ils la cherchent en Orient. Non, ce n'est pas une blague, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà que, et l'Orient et l'Occident découvrent un peuple qui est capable des deux performances. Israël, c'est ni l'Orient, ni l'Occident, c'est les deux à la fois. Israël est capable de performance dans les sciences et les techniques et de performance dans les capacités spirituelles. C'est ça qui, d'ailleurs, qui inquiète et qui fascine le monde entier. L'occidental découvre une manière d'être homme qui est Israël, qui a les deux capacités, l'oriental aussi, et c'est pourquoi le monde entier fait la queue au Misra d'Achouz. Ça veut dire, apprenez-nous vos techniques monothéistes. Vous voyez à peu près le problème. Eh bien, c'est ce qui se cherche dans cette paracha entre les deux enfants. Je voudrais que vous compreniez bien ces quatre personnages. Okay, vous avez un Ésaü qui n'est que l'homme de la matière. Un Ésaü qui va se repentir et va chercher l'esprit. C'est la main, la voix et la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ça, c'est dans l'histoire, c'est le chrétien. C'est clair. Qui est-ce qui n'est pas Israël et qui se prétend Israël ? Dans l'histoire, c'est l'Église. Alors, effectivement, c'est la civilisation romaine convertie au christianisme et qui se prétend Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? La matière a projeté son obscurité dans l'esprit. Et ça, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit en fait, parce que le bon Dieu vous a fait naître juif. Mais si vous saviez ce que c'est que la religiosité chrétienne, c'est une religion du deuil, du cimetière, de la mort. Ils sont obsédés par ça. Vous entrez dans une église, vous entrez dans un caveau. L'odeur de la sacristie, c'est l'odeur de la mort. Et je veux dire, je ne suis jamais rentré dans une église, c'est interdit. Vous allez me demander d'où je sais. Je veux dire d'où je sais. Une fois, quand j'étais soldat, j'étais de garde dans une église. Et j'ai obtenu de rester à la porte. Par conséquent, quand ils ouvraient la porte, je vois ce qui se passe. Ça m'a permis d'ailleurs d'apprendre, ça m'est resté encore, les chants qu'ils chantaient dans l'église et de savoir qu'est-ce que c'est que leur psaume chrétien. Mais aucune idée à quel point ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Rien. Et pourtant, c'est au nom de la Bible. C'est un Ésaü qui se prétend Israël. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Si vous voulez, je vous chante un cantique chrétien, ça va aussi. Et alors, je reviens au sujet. D'autre part, vous avez un Jacob qui n'est que Jacob. Ça, c'est le juif pieux enfermé dans sa yeshiva et qui refuse le monde. Ça, on va voir dans la suite de l'histoire de Jacob. Jacob a peur de la bénédiction d'Ésaü. C'est pas pour moi. C'est pour l'autre, c'est pour le goy. Essayez de comprendre cette identité psychique d'un Jacob qui a peur du monde de la matière, c'est pas pour lui. Alors il est enfermé dans les quatre coudées de son étude, c'est Jacob. Hein. Subitement il entend parler d'Israël, c'est-à-dire l'État juif. Et alors il est contre, c'est pas pour lui. Est-ce que vous avez bien compris ça ? Ça c'est Jacob qui n'est que Jacob. Et puis Jacob qui a le courage d'avoir les mains d'Ésaü, ça c'est Israël. Alors on va commencer par ce verset, et je vais vous donner d'ailleurs un enseignement du Gaon de Vilna à ce sujet. Alors, je vais prendre le verset, quelle est l'idée ? On a bien un quart d'heure quand même.
Ce qui est bizarre, c'est que justement les Haredim, ils se battent beaucoup
sur le Gaon de Vilna, pour certaines choses. Oui, il se bat sur le Gaon de Vilna, et chaque fois que le Gaon de Vilna parle de l'État d'Israël parce qu'il l'a prophétisé, si vous voulez, je vous donne le titre du livre. Hein ? Alors ils disent, ah ça on n'est pas sûr que c'est de lui. Hein ? Et j'ai vu. La même chose sur Maïmonide, quand les Lubavitch sont persuadés que leur rabbin c'est le Messie. Vous savez ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une histoire pareille, au bout de 2000 ans, il n'y a pas de tremblement de terre. Okay, les Juifs sont en train de s'inventer un Messie, il n'y a pas de tremblement de terre. Ça s'est passé il y a 2000 ans la dernière fois. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et, qu'est-ce que je disais ? Oui, je pensais au Louvain. Eh bien, Maïmonide a décrit le programme du Mashiach. Et alors, les Louvain se basent sur Maïmonide, sauf là-dessus. Parce que là, Maïmonide est contre, tout simplement. Eh bien, attention à ça. Le bon Dieu est plus fort que les rabbins. Alors, les rabbins ont des théories, et bien, le bon Dieu fait ce qu'il veut malgré eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein. Par exemple, ça fait 2000 ans qu'on prie Dieu en l'appelant Bonnet Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Alors, vous avez des rabbins qui disent, mais c'est interdit, c'est interdit. Il faut que Dieu construise Jérusalem. Eh bien, c'est Dieu qui construit Jérusalem, mais il ne voit pas que c'est Dieu qui le construit. Alors pour ça, il se sert de Teddy Kollek. Tu sais pourquoi ? Parce que pour construire Jérusalem, il faut un architecte, il ne faut pas un Rosh Yeshiva. Alors imagine un Rosh Yeshiva qui va nous construire Jérusalem. Chlet. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, c'est une mentalité qu'il faut que vous arriviez à diagnostiquer. C'est une prise de conscience de la vocation spirituelle qui nie le monde extérieur. Alors ça, c'est Jacob enfermé dans son ghetto. Mais le vrai Jacob ne s'est pas laissé avoir par son livre. Finalement, il a fondé la nation d'Israël. Et, imaginez, 4 femmes. Hein, et ben, il a supporté 4 femmes. Et il a fait un peuple avec. Ça, on verra dans l'histoire suivante. Et 12 tribus. Alors, cette typologie, c'est le mot scientifique précis, voilà, le type de l'identité humaine qui nous est raconté dans cette histoire. Alors, je reprends le problème. Il faut vous arriver à vous habituer à ça. Il y a 4 types d'identité d'un Israël possible. 3, c'est des échecs. Un Ésaü qui n'est que Ésaü, échec. Un Jacob qui n'est que Jacob, c'est pas encore la réussite. Et notre Jacob est devenu Israël. Et c'est pas facile. Il faut qu'il lutte avec l'ange du génie d'Ésaü jusqu'à ce qu'il arrive à le vaincre. Alors Dieu le nomme Israël. Vous avez remarqué, hein ? Et puis, tant qu'il n'est pas sûr de gagner, il a peur. Je vais raconter un midrash. Ça me rappelle une notion qui est très, très répandue. Bon, ça me revient une image de la guerre. C'est la guerre de 14-18. Une image des caricaturistes. Et alors, on a attendu, à la guerre de 14-18, pendant 2 ans, que l'Italie entre en guerre avec les Alliés contre les Allemands. Dans la dernière guerre mondiale, ça a été l'inverse. Ils sont entrés en guerre avec les Allemands contre les Alliés. Alors, il y a une caricature qui montrait le roi Emmanuel, c'est le Emmanuel II, je crois, le roi d'Italie de l'époque, qui aiguisait son sabre en disant je me prépare. Alors, il y avait deux images. La première, le sabre est entier, il aiguise sur la mer en disant je me prépare. Deuxième image, il ne restait que la poignée du sabre, je me prépare. Oui, il y a des gens qui se préparent. Ça s'appelle une préparation. Ils se préparent, mais ils passent tout leur temps à se préparer. Alors, il faut se préparer, mais au moment où il faut sortir de la maison de préparation, il faut en sortir. Alors, ceux qui s'enferment par vocation de préparation, c'est un échec quant au but à chercher. Vous avez compris l'idée ? Je vais vous donner une image. Je me suis une fois demandé pourquoi les Haridim se balancent tellement dans la prière. Mais je veux dire que chez les Sfaradim, c'était interdit. C'est une habitude ashkénaze, mais que les maîtres ashkénazes ne permettaient qu'aux élèves qui savaient comment le faire. C'est toute une technique d'assaise, de céder dans la kavana par un certain nombre de balancements dont finalement les gens ont perdu la science. Et chez les Sfaradim, c'était interdit, parce que celui qui ne sait pas, je ne sais pas si vous êtes rentré dans une synagogue Sfarad, de véritable rite Sfarad ancien, pas des Babylones, il y a une stature noble. Il y a, avant le Kriyat Shema, quelques balancements dans la Birka, la Bracha de Ahavat Olam. Okay? Mais c'est des balancements lents et il y a toute une sens de cette ascèse. Je vais raconter une histoire pour bien vous montrer ça. Comment ça s'est dégradé dans le monde ashkenaz lui-même. on prend de l'excitation pour de la ferveur. Faites bien attention à ça. Ça aide à la ferveur de se concentrer. Mais surtout chez les jeunes gens, il y a des mouvements d'excitation qui sont suspects, qui sont troubles, qui se font prendre pour de la ferveur mystique. Et quand on est mystique à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Quand on est mystique à 70 ans, c'est que peut-être on est mystique. Alors quand quelqu'un de 17 ans singe un mystique de 70 ans, c'est suspect. Qu'est-ce qui se passe? Les psychologues savent. En tout cas, pour revenir au sujet, il y avait une fois un rocher Shiva qui avait l'habitude de prier contre le mur. Il rentre un jour dans ses yeshivas un peu en retard pour la prière de Mincha. Et puis il voit tous les élèves, il commence la prière, et puis il commence à gesticuler, comme vous savez, la prière fervente. Il les regarde stupéfait, il attend qu'ils aient fini de prier, il a dit, que vous avez fait? Alors ils ont dit, m'en fais comme toi. Effectivement, ils voyaient leur maître prier. Alors il a répondu, oui, mais moi je sais ce que je fais, vous ne savez pas, alors interdit. Je ne sais pas si vous comprenez où ça passe, pas vous mettre les points sur les i. Mais vous avez déjà l'âge suffisant pour comprendre de quoi il s'agit. Il y a des conduites psychologiques qui frôlent les conduites mystiques, mais c'est autre chose. Alors il faut se méfier de ces conduites d'excitation qui se font prendre pour de la ferveur. Regardez-moi, je prie. Okay? Méfiez-vous de ça. Alors je referme la parenthèse. De quoi je parlais? Avant de parler des gestes de la prière. De quoi je parlais avant? Oui, ça on va voir le verset Saint Jean en tête. Mais pourquoi j'ai parlé de... Ah oui, oui, oui. Alors je me demandais, mais pourquoi il se balance? Parce qu'il n'y a pas que quand il prie. En général, il vit en se balançant. Alors, j'ai finalement compris. Vous savez que... C'est une blague, ça fait rien. Vous savez que la halakha, c'est la même racine que halicha. Qu'est-ce que ça veut dire halicha? C'est la marche. Alors quand on dit je marche, mais on reste sur place, on se balance. Alors imaginez quelqu'un qui peut monter un escalier, c'est d'une rampe. C'était d'une rampe, alors ça m'arrive, ça vient avec l'âge, pour monter un escalier. Seulement voilà, il sait tellement bien de la rampe qu'il met la main, il met l'autre main, il surtout ne bouge pas et je monte. Il reste sur place, on se balance. Vous avez compris ce qu'il se passe? Alors quelqu'un qui dit « je me prépare », mais qui fait que ça, c'est autre chose. C'est plus une préparation. Vous avez compris le problème? Donc méfiez-vous de ça. C'est évident qu'il faut se préparer, mais si on reste enfermé dans le laboratoire de préparation, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Vous avez compris le problème? Donc, alors on se donne un temps. Je me prépare pendant X temps. Et après, je me marie, service militaire, je deviens un homme de l'État d'Israël. C'est tout à fait autre chose. Vous avez été clair? Ou alors, je suis un grand de la Torah. Mais laquelle? Et pour ça, il y a des tests. Je me rappelle, j'ai eu une fois une question de Bachur Yeshiva qui est venu me dire, voilà, j'ai des tendances à être artiste, peintre, mais je préférais être dans le Tamichara. Alors j'ai dit, il faut choisir. Ou bien tu seras un grand amitracha, mais ça vaut la peine. Ou bien tu seras un grand peintre, mais ça vaut la peine. Mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Hein? Vous avez des tas d'hommes purs qui nous font des images pieuses. Ils croient que c'est de la peinture, alors que c'est des coups de pinceau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un vrai peintre, c'est un vrai peintre. Mais pour ça, il faut qu'il se voue à ça, ou à ça. Et il m'a dit, mais comment je vais savoir? Et nous avons une règle, c'est prévu par la Gemara. On essaye d'abord d'étudier la Torah. Et quand son Rosh Yeshiva lui dit « Tu peux devenir un grand de la Torah », il doit faire que ça. Si son Rosh Yeshiva lui dit « Tu sais que tu vas devenir un chômeur de bouche », il vaut mieux qu'il soit un grand peintre, pieux. Vous avez compris le problème? Il ne faut pas se tromper de vocation. Okay? Bon, on ne joue pas à être un Miraham, pas plus qu'on joue à être mathématicien. Je reprends le schéma tout à l'heure. Bon. Alors là, c'est un profil qu'il faut redécouvrir. Un Jacob qui a peur d'être Israël. Et avant d'arriver au verset du Grand Devina, je vous cite un Midrash. C'est le Midrash, on le verra d'ailleurs par la suite, je ne sais pas quelle année. C'est le Midrash où Jacob voit dans sa vision la vision de l'échelle, il voit des anges monter et descendre. Ça a dû vous frapper que les anges attendraient ce qu'ils descendent d'abord avant de monter. Qu'est-ce que ça veut dire les anges qui montent et qui descendent après? Une des explications du Midrash, c'est qu'il voit les archanges qui sont les génies des grandes civilisations. Il voit l'ange de Babel monter et descendre. Il voit l'ange de Paras, de la Perse, monter et descendre. Et puis il voit l'ange d'Ésaü, de Rome, monter et ne pas descendre. Alors il a peur. C'est la scène que raconte la Torah. Hein? Alors, il demande à Dieu comment il ne descend pas. Alors Dieu lui dit, monte pour le faire descendre. Et il se prépare à monter pour le faire descendre. Ça a duré 2000 ans. Finalement, Jacob s'est décidé à monter, l'ange d'Ésaü est tombé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que le deuxième mélange qui s'avère, c'est Jérusalem et Israël, c'est pas Rome. Pendant 2000 ans, Rome s'est prise pour Jérusalem. Et alors, imaginez un Jacob qui a peur de monter dans l'échelle pour faire descendre l'ange d'Ésaü. Où on serait? Alors, vous voyez le message que je voulais vous citer pour vous éclairer. Bien sûr, c'est pas facile de monter et faire descendre l'ange d'Ésaü, mais c'est ça l'objectif. C'est pas de rester Jacob en bas de l'échelle, c'est de devenir Israël. J'ai compris l'enjeu du problème. Et alors, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez, disons, avec sympathie, cette difficulté des Juifs de ghetto, pour qui, subitement, ils découvrent la tâche à résoudre, devenir Israël, alors qu'ils sont habitués depuis 2000 ans à être Jacob dans le ghetto. Alors ça explique leur réaction. Vous avez compris? C'est bien clair. Et je pense que le danger qui guette Israël de la part de ces Juifs-là est plus grand que celui qui nous vient d'Ishmaël ou de Ésaü. C'est beaucoup plus grand. Parce que, bon, c'est pour des tas de raisons, mais je pense que vous êtes assez grand pour le comprendre par vous-même. Prenez comme verset le verset, vous allez voir, dans le chapitre... dans le chapitre 27, quel avait-il? Bon, on va voir au moins ce verset. Verset 22. C'est-à-dire Kavet du chapitre Kavzaïm. Vous y êtes? Alors là, c'est quand Jacob qui a mis des mains, des peaux de chevreau sur ses mains, pour faire comme s'il avait les mains d'Ésaü. Il s'approche d'Isaac, lui donne à manger, et lui demande de le bénir. Alors, verset 22, « Vaïgash Yaakov et Yitzhak, Aviv, et Jacob s'approcha d'Isaac son père, Vaïmoucheu, et son père là, comment on dit en français, là, palpé, Vaïomer, et il dit, « Akol kol Yaakov, la voix est la voix de Jacob, Vayadaïm Yadaïsa, et les mains, c'est les mains d'Ésaü. » Et c'est là que Isaac a eu très peur, d'ailleurs c'est dans un verset précédent. Non, c'est quand Ésaü va venir qu'il y a ce verset où Isaac a très peur en s'apercevant qu'il y a un monstre qui était là. Quelqu'un qui avait les mains d'Ésaü, la voix de Jacob. Je vous dis, la première fois que j'ai eu l'explication de ce verset, et concrètement, c'est la première fois que j'ai rencontré un curé. Comme je vous l'ai dit, moi je suis né en Afrique du Nord. Pour nous, c'était des créatures bizarres, exotiques, des Européens qui se prenaient pour des Juifs. Et on ne fréquentait pas ces gens-là. En France, j'ai rencontré une fois un curé et je vois un Romain me parlant de la Bible, citant des versets. Je suis resté. Et j'ai revu ce verset. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains des élus. Vous avez compris? Et alors, voilà ce que le Grand Devina a enseigné. Regardez bien le verset. Vous allez prendre le premier mot de col, à col, coliaco, le premier mot, à col, il manque un vav. Vous remarquez? Alors le Grand Devina a enseigné la chose suivante. Lorsque la voix de Jacob est faible, si la voix, chasser, il manque le vav, il manque la force de la voix, alors les mains, c'est les mains d'Ésaü. Mais si la voix de Jacob est forte, alors les mains, c'est aussi les mains de Jacob. Ça, c'est du Grand Devina. Lorsque Jacob a le courage de décider d'être Israël, il a aussi les prérogatives d'Ésaü. Mais si Jacob a la voix faible, alors les mains, ça appartient à Ésaü. J'ai compris ce qu'il y a dans ce verset. Parce que c'est très important. La première vocation de Jacob, c'est l'étude de la voix. L'étude de la voix, c'est la Torah. Mais tant que Jacob n'a pas la force des tâches matérielles, les mains d'Ésaü, il n'est pas encore Israël. C'est quand il arrive à vaincre Ésaü sur son propre terrain qu'il reçoit le nom d'Israël. C'est bien clair. Alors c'est ça qu'il faut découvrir. Et c'est ça sur quoi les Haredim ferment les yeux, parce que c'est leur problème. Ils veulent rester un Jacob qui refuse d'être Israël. Israël, pour eux, ne veulent pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ?